Alors, le lien avec le pays qui suit est assez direct avec la thématique abordée, Mathilde Lemoine, notamment sur laquelle elle est revenue à la fin de sa conclusion, hein, le lien entre capital humain et éthique de flexibilité. On va voir normalement le fait que l'APC, dont on parle initialement, c'est beaucoup pour préserver ce capital humain qui est une des forces du monde.
Donc on a beaucoup parlé de paradoxes et on parle du cas allemand comme un véritable paradoxe dans la crise. On va voir pourquoi rapidement. On assiste en Allemagne à une récession exceptionnelle, donc une baisse très importante de la croissance du PIB, plus importante que la moyenne de la zone euro. Avec sur l'année 2009 un recul du produit intérieur brut de 4,7%. Le plus important, c'est le chiffre que Mathilde a donné pour la France, de 3,9%. Mais en même temps, on assiste à une baisse, à une montée beaucoup plus faible que dans l'ensemble de la zone, du taux de chômage, voire à une décrue du taux de chômage. Dès la moitié de l'année 2009. On va essayer de voir un peu plus clair dans ce paradoxe. On assiste aussi à ce qu'on appelle la miracle depuis deux semestres, c'est-à-dire une reprise au-delà de toutes les attentes et les prévisions, avec un taux de croissance de 2,2% au deuxième trimestre. Là aussi, une baisse du taux de chômage qui revient à 7%, donc un niveau assez faible et au niveau avant la crise. Donc cette performance de l'emploi peut se chiffrer en Allemagne en 140 000 dispositions d'emploi. De la crise, à comparer avec le chiffre que donnait le mathématique pour la France, donc 600 000, pour une hauteur beaucoup plus importante de réduction du PIB. Donc, on va essayer d'aller un peu plus en arrière et on voit que cette performance et cette situation sur les grands pays d'Allemagne est une histoire relativement récente. Donc, on a eu une très forte croissance du taux de chômage en Allemagne par rapport aux grands pays de la zone et à moyen de la zone jusqu'à 2005. Et la très forte reprise de l'économie mondiale et de l'économie allemande qui a commencé à se manifester en 2005 s'est par contre accompagnée d'une décrue beaucoup plus importante du taux de chômage en Allemagne. Alors, quelle explication donner à cette surperformance d'Allemagne? Déjà, tout ne vient pas de la politique de l'emploi. On voit que sur la période la plus récente, 2005-2008, on a une variation, une baisse du chômage de 44%, et on voit qu'il y a presque la moitié qui est expliquée par une performance du marché du travail, par des variations d'emploi. Qui peut être lié à la fois à la conjoncture et éventuellement aux politiques du marché du travail qui ont été mises en place. Mais une grande partie de cela s'explique aussi, à hauteur de 20%, par une démographie beaucoup plus favorable, en fait, à une décrue du chômage. L'Allemagne a une population qui baisse, contrairement à la France, donc une population en âge de travailler qui baisse aussi. Et malgré une croissance de la participation au marché du travail, donc il y a de plus en plus de gens, soit qui ont le chômage, soit qui ont l'emploi, eh bien, il y a moins de gens à mettre dans l'emploi qu'en France. Ceci est dû à des questions extrêmement démographiques. On a un baby boom qui arrive plutôt en Allemagne, c'est une génération très nombreuse de toute génération, plutôt que dans les autres pays d'Europe. Et une personne de réalité qui contribue à tout cela. Donc, il y a aussi une dépendance beaucoup plus longue qui vient expliquer cette performance du chômage. Si on analyse plus récent pour expliquer le pourquoi de cette baisse si importante du PIB, si on regarde la contribution des différentes composantes du PIB, dans la crise, on remarque que c'est surtout l'investissement et le solde des échanges extérieurs qui ont contribué très négativement à la croissance du PIB. Donc, c'est le cycle de l'investissement mondial qui s'effondre avec la crise, et c'est aussi le cycle du commerce qui ralentit et qui affecte particulièrement l'Allemagne par sa très forte exposition vers les pays émergents qui étaient particulièrement touchés par la crise, et par sa spécialisation productive, par le bien d'investissement. Qui sont les premiers touchés par cette crise qui se manifeste d'abord par l'arrêt de la production. Donc, si on regarde en taux de croissance de la valeur ajoutée, on voit que c'est une crise qui est principalement industrielle, non? C'est l'industrie qui est la plus touchée. Parmi les branches manufacturières, ce sont surtout les branches exportatrices et les productrices de l'électronique, l'électronique et l'automobile qui sont touchées. Alors, quelle stratégie de réaction par rapport à cette situation? Je vous présente ici le taux de marge dans le secteur marchand, c'est la première notion de profit des entreprises. Et on voit que la baisse du taux de marge était particulièrement importante dans le cas de l'Allemagne, beaucoup plus que dans les quatre grands pays de la zone euro. Donc, un choix de baisser énormément le profit des entreprises et de maintenir une forte progression de la masse salariale par rapport à ce qui s'est fait. On a évoqué donc le rôle joué par la flexibilité interne, on dit le maintien de la masse salariale par le maintien de l'emploi. Mais on voit bien que le volume des heures travaillées, c'est le volume de l'emploi a baissé et il a baissé. Non pas par de destruction d'emploi, mais par une baisse de la durée du travail. Alors, cette baisse de la durée du travail a été de 23% dans l'ensemble des branches, et on peut être expliqué pour un tiers par le recours au chômage partiel, pour les deux tiers, tous les autres mécanismes en fait de réduction du temps de travail, à la hauteur de 40% environ, est expliqué par le recours en recours au temps partiel, qui compte aujourd'hui en Allemagne 34% de l'emploi, et 30%, le 30% récent, c'est des réductions d'heures supplémentaires, l'utilisation des comptes par les temps, et une réduction de la durée hebdomadaire du travail, Alors, quel rôle ont joué les institutions dans cette flexibilité interne? C'est déjà évoqué par mon voisin, hein, mais l'Allemagne donc, a une longue tradition de négociations collectives et de concertation bipartite entre les syndicats et les patronats, dans lequel l'État en fait, ne joue pas un rôle de grand intervenant traditionnellement. Donc on a un cadre notamment du chômage partiel qui est établi depuis le début du siècle avec des règles assez claires. Et qui peuvent en partie être réglées par des accords d'entreprise, mais dans lesquels en fait, l'État intervient uniquement pour moduler les incitations en temps de crise. On a donc une flexibilité interne qui qui est partiellement compensé, un salaire horaire, et qui donne donc lieu à une modération salariale. Et on voit déjà au premier semestre 2010 un impact sur l'évolution du salaire, parce que le salaire effectif de l'économie progresse presque pas par rapport au salaire négocié, qui eux devraient progresser de 2% en France, qui est prévu dans la négociation collective. Donc, c'est un impact de la crise, non pas sur le niveau de l'emploi, mais forcément sur le secteur du temps de travail. Alors, on voit comment le dispositif de chômage partiel a joué un rôle d'amortisseur du chômage. Au pic de la crise, c'est-à-dire en mai 2009, il y a eu 1,5 million de travailleurs en chômage partiel, ce qui correspond à 3,5% de la population active. Si on traduit ça en taux de chômage, c'est 1,5 million ont connu en moyenne une réduction de la durée du travail de 30%. Donc, cela fait 1,2 points de chômage en moins par ce dispositif du chômage partiel. Aujourd'hui, en avril 2010, là où les données sont faites, le nombre de chômeurs partiels a énormément diminué. Il en reste quand même 630 000, soit 1,5% de la population active. On peut dire 0,5 points de chômage pour une durée moyenne de 30%. Alors, c'est surtout le secteur particulier qui a été touché, avec 4/5 des travailleurs en chômage partiel présents dans ce secteur. C'est surtout une affaire de petites et moyennes entreprises. Donc, ce sont les entreprises, plus que les deux tiers, en fait, ce sont des entreprises de taille inférieure à 150 employés. On a dit une réduction moyenne du temps de travail de 30%. Ce qu'on constate, c'est que sur la période la plus récente, en fait, on a une baisse de la part des travailleurs qui ont très peu réduit leur temps de travail, qui constitue à peu près la moitié, c'est-à-dire ceux qui ont réduit leur temps, et une augmentation des travailleurs qui ont réduit leur temps de travail de plus de 25% et voire de 100%. Donc, on a d'un côté on pourrait, de ces chiffres-là, tirer la conclusion qu'on a d'un côté certaines entreprises ou certains secteurs qui retrouvent une certaine croissance et qui donc diminuent le recours au temps partiel, du moins à la baisse de l'électorat, mais d'autres secteurs dans lesquels, en fait, la croissance ne redémarre pas, qui se cristallise de certaines sortes dans ce genre de dispositifs. Et qu'on retrouve la même idée lorsqu'on regarde au chômage partiel, à l'aide du chômage partiel par durée dans le dispositif. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de chômage partiel qui le sont pour des périodes supérieures à un an. Le dispositif du chômage partiel a été modifié contre la crise, la durée dans le chômage partiel a été augmenté de 6 mois à 18 mois, ensuite à 24 mois pour revenir à 18 mois pour le chômage partiel à partir de 2010, inscrit à partir de 2010. Donc, comment est intervenu l'État dans ce processus de négociation de la baisse du temps de travail qui se fait au niveau des conventions collectives? Modifiant le cadre réglementaire par un allongement de la durée et en modifiant aussi les règles afin d'éligibilité, les conditions d'éligibilité. Auparavant, une entreprise pour avoir recours à ce dispositif devait ne plus pouvoir embaucher, avoir profité une baisse de 10% de salaire pour au moins 30% de ses salariés. Avec la crise, on rend beaucoup plus possible à ce dispositif en disant si vous n'êtes plus capable d'embaucher un salarié en temps plein, eh bien, vous pouvez avoir recours au chômage partiel. Donc, l'État a joué son rôle aussi en fournissant un soutien financier. Alors, pour le salarié, on a une garantie de salaire net de 60 à 67% pour les enfants ou pas, par an non travaillé, et une totale exonération de cotisations sociales à la charge du salaire. Pour l'employeur, on a une exonération de 50% de cotisations sociales, salarié et employeur. Et sur une assiette qui est limitée à 80% des heures chômées. On peut monter jusqu'à ça la totalité des heures chômées si il y a un dispositif de formation qui est mis en place de faire au salarié ou pour un chômage partiel de plus long terme, c'est-à-dire au-delà des 6 mois. Donc, l'État prend en charge le restant, le 50% de l'utilisation employeur et salarié, et le coût de pas de l'opération est de 1,5 milliard d'euros en 2009. Pour les entreprises, on a une baisse du coût, si ce n'est pas proportionnel forcément à la baisse de l'année, parce qu'il reste des charges résiduelles qui ne sont pas réduites. Et donc, juste un peu ces éléments-là pour revenir à des choses un peu plus récentes. Alors, pourquoi l'Allemagne a pu, les entreprises allemandes, se permettre en fait ce dispositif qui va tellement dégrader leur tonnage, tout simplement parce qu'au cours des années 2000, elles ont su dégager une situation de profit et de rentabilité beaucoup plus élevée que les autres pays. Vous voyez une montée du taux de financement des sociétés non financières allemandes qui est particulièrement élevée par les autres pays. Alors, sur la situation la plus récente de la crise, pour remettre aussi l'Allemagne en perspective et s'appeler quelque chose sur l'éventuelle évolution du taux de chômage, on voit que l'Allemagne est parmi les grands pays de la zone euro, le seul qui arrive à récupérer ses parts de marché à l'exportation de pertes qui ont été rétablies pendant la crise. Donc, une très forte performance à l'export qui pourrait lui donner encore un souffle d'air supplémentaire par rapport aux autres pays, dans ce cadre, comme a été noté par Covid, d'un ralentissement de la croissance des émergents et des États-Unis à venir sur l'année 2011, et aussi dans un cadre de restrictions budgétaires déterminées à la fois par la fin des plans de relance et à la fois par un plan de vigueur qui, on a eu en Allemagne à partir de l'année 2011. Donc, si on regarde la reprise des emplois intéressantes, on voit que la forte réduction de l'emploi en Allemagne se fait aussi par une réduction de l'emploi intérim et par une certaine capitalisation de l'emploi, parce que l'emploi intérimaire, lui, il n'a pas baissé, en fait, il a continué d'augmenter. Lors de la reprise, on assiste bien sûr à une baisse du chômage, on assiste bien sûr à la création d'emplois, donc à partir du premier semestre 2010, mais que des 250 000 emplois nous avons créés, et bien 120 000 sont franchis. Et donc, on peut s'interroger sur en fait, le maintien de cette performance du personnel. Alors, petit bémol, déjà, on aura une décrue du chômage beaucoup moins rapide pour les facteurs que vous avez évoqués, pas forcément rapide en 2011 et en 2010. Un emploi qui se fait pour beaucoup sur des emplois précaires et aussi le dispositif du chômage partiel en lui-même va faire qu'on aura moins de relations d'emploi parce que les travailleurs qui sortent du dispositif du chômage partiel sont plus importants que vous avez un emploi. Donc, une possible gradualisation de la cristallisation du marché du chômage partiel, mais plus de risques de cristallisation dans le chômage partiel pour ce qui est fait, l'éducation de l'emploi continue et grâce au chômage de nouveau devenue positive et donc les performances du marché du travail sont quand même là en Allemagne.
Merci beaucoup pour cet exposé très complet sur l'Allemagne. Alors, il nous reste un gros quart d'heure. Hein, on a commencé un peu en retard, mais il faut qu'on finisse à 16h30. Donc, il nous reste un gros quart d'heure pour prendre des questions, essayer de répondre à quelques questions.
Bonjour. Donc j'avais une question. Donc, globalement, vous avez expliqué que la flexibilité interne permettait de maintenir, de contenir les taux de chômage à des niveaux corrects, 7% en Allemagne notamment. Donc ça, c'est la situation en période de crise. Et qu'en est-il en fait en période de relance, en période d'activité économique normale? Est-ce que la baisse du temps de travail permet de baisser encore plus les taux de chômage? Apparemment, l'expérience française, l'expérience des 35 heures, ne semble pas avoir été forcément un succès. Alors, qu'en pensez-vous par rapport à ça? Et sur un deuxième point, vous avez expliqué globalement que la question par rapport à l'emploi, que l'une des questions importantes, c'est la question du partage du travail. Donc, je pensais notamment par rapport aux retraites. Est-ce qu'on ne doit pas craindre, avec l'allongement de la durée des cotisations de retraite et donc l'augmentation des taux d'emploi des seniors, que ça n'entraîne à terme une augmentation du chômage, et plus particulièrement du chômage des jeunes?
Moi, je voudrais peut-être juste compléter parce que c'était pas du tout mon objet de dire que le chômage partiel est une solution, même en période de crise. Pourquoi? Parce que ça renforce les insiders, donc ça renforce le pouvoir de ceux qui sont sur le marché du travail. Et ça veut dire que finalement, si vous souhaitez développer la formation de la force de travail, en fait, vous les maintenez dans leur emploi. Et donc par rapport à une logique qui serait d'armer le salarié pour pouvoir changer de travail plus facilement, pouvoir moins subir les évolutions conjoncturelles, ça va à l'encontre de cette logique-là. Et pourquoi en Allemagne c'est fait? C'est parce que la population diminue. Donc, et dans une logique tout à fait différente. En France, comme on fait beaucoup d'enfants, forcément la population continue à croître. Donc ça veut dire que la population active continue à croître. Donc si vous maintenez les salariés dans l'emploi, même en période de crise, et si vous les aidez pas à trouver ou à pouvoir accepter un autre travail, finalement vous renforcez ce qu'on dénonce depuis 20 ans, qui est le dualisme entre les insiders et les outsiders. Donc vous allez privilégier ceux qui sont dans l'emploi et vous allez renforcer encore les inégalités avec ceux qui ne sont pas encore dans l'emploi, donc les jeunes et, ou ceux qu'on exclut, c'est-à-dire les seniors. Alors voilà, c'est pour ça que je laissais plutôt répondre le premier intervenant, parce que c'est plutôt lui qui avait développé ce point. Moi, je suis vraiment, il me semble que c'est, il faut faire attention à dire que c'était une solution pour éviter que le taux de chômage augmente trop fortement, et il faut bien regarder les conséquences et surtout les caractéristiques des pays dans lesquels ça a été mis en place, et regarder aussi d'ici 2-3 ans quelles sont les conséquences. Je crois que ça, c'est une chose. L'allongement de la durée du travail, on sait bien que c'est une politique qui ne peut être envisagée que si on progresse sur le taux d'emploi des seniors. On voit bien que pour l'instant, il n'y a pas eu d'accompagnement. C'est-à-dire que si vous allongez l'âge de la retraite, en fait, le calcul qui est fait implicitement, c'est de dire forcément, les entreprises vont vous garder plus. Voilà, c'est-à-dire que plutôt que de vous licencier à 55 ans, elles vont le faire à 60 ans ou à 61. Implicitement, c'est ce qu'on dit. Il me semble que ça n'est pas automatique s'il n'y a pas d'accompagnement. Et ce qu'on voit dans les pays du Nord, notamment en Suède, c'est que l'entreprise et la collectivité réfléchissent à une nouvelle organisation du travail dans l'entreprise pour que justement la personne qui est 55, 60 ou 65 ans trouve toujours sa place. Parce qu'on sait bien que les seniors apportent d'autres choses dans l'entreprise et ne peuvent pas garder le même emploi que celui que ces personnes avaient à 45 ans. On le sait. Mais aujourd'hui, en France, par exemple, ce travail n'est pas fait. Et donc, forcément, il y a une question qui se pose. Si on allonge la durée du travail sans aider à l'insertion des seniors dans l'entreprise, parce que sinon, le résultat, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire, de fait, une baisse des pensions, parce que si de toute façon vous sortez du marché du travail, mettons à 60 au lieu de 59, après vous faites un peu de chômage, vous sortez du système, donc ça veut dire baisse des pensions. Donc il faut absolument que soit engagée une négociation pour augmenter le taux d'emploi des seniors. En ce qui concerne le taux d'emploi des jeunes, je crois qu'il y a une étude de l'OCDE qui est extrêmement passionnante et qui montre qu'en France, il est bas parce que les jeunes travaillent moins en même temps que leurs études, que ce qu'on peut observer dans les pays anglo-saxons. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de positif de travailler en même temps que ses études? Est-ce que c'est possible? Dans quelles conditions? Mais voilà, par exemple, deux propositions concrètes pour faire en sorte que l'allongement de la durée du travail ne se traduise pas par une précarisation des seniors.
Merci. C'est compliqué, c'est tout ça, c'est effectivement beaucoup de thèmes pour revenir sur la question des travailleurs autonomes, parce que je pense qu'il y a une leçon importante à tirer de la crise. Nombre d'études montrent qu'au période de croissance, certes, les contrats de durée déterminés, permettent à certains catégories de salariés d'avoir un pied sur le marché du travail, mais nombre d'études montrent que ces salariés sont souvent donc des emplois à faible contenu, à bas salaire, et c'est ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, pour un taux d'inflexibilité externe, a conduit à une augmentation sans précédent. 30% des travailleurs à bas salaire, 30% des salariés allemands sont salariés à bas salaire. Et en période de récession, le problème avec le travail à durée temporaire, c'est que finalement, ce sont les premiers à affecter le marché du travail. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de société durable, marché du travail durable. C'est-à-dire que pour les travailleurs permanents, il y a toute une série de parties, réduction des temps de travail, réduction des salaires pour éviter les licenciements. Et au même moment, certains nombres de salariés à durée déterminée sont les premiers licenciés sur le marché du travail. Le coût en tant que numérique est important. Je ne pense pas que l'objectif de la France soit de copier le modèle américain. Je pense que c'est important de trouver la panoplie nécessaire au marché du travail flexible interne et flexibilité externe.
Oui. Oui, bonjour. En fait, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il faut une flexibilité externe mais il faut l'accompagner. Le deuxième pas que finalement on n'a pas fait en France avec la sécurité, la fameuse flexicurité. Mais quand on regarde les chiffres qui ont été donnés dans le premier exposé sur les taux de chômage, on s'aperçoit que des pays comme le Danemark ou la Suède ont eu finalement une montée du chômage assez importante. Donc on voit l'aspect flexibilité. Mais donc ça veut dire qu'on doit s'attendre dans les mois qui vont venir à une baisse assez importante du taux de chômage dans ces pays-là, parce qu'on suppose que les gens qui sont actuellement au chômage sont pris en charge par l'aspect sécurité, sont formés, sont réadaptés, etc., et qui vont donc pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans l'emploi qu'en France, où il n'y a pas cet accompagnement. Donc on va voir si le modèle de flexicurité, finalement, est efficace ou s'il explose en termes de coûts sociaux dans les mois à venir.
C'est tout à fait juste. On va voir cette évolution. Il y a quand même un point, parce que j'imagine que dans la salle, il y a aussi des juristes. Il y a des personnes intéressées par l'économie, mais il y a aussi des juristes. Et on voit une évolution de la jurisprudence française, puisque vous savez que le Code du travail impose aux entreprises de former ses salariés, pas seulement pour leur emploi, mais pour garder leur employabilité. Et on a vu deux condamnations récentes d'entreprises qui n'avaient pas formé leurs salariés et qui ont perdu, au bout de 20 ou 25 ans de travail, leur employabilité. Et donc, un des moyens de la vraie flexisécurité, alors c'est un peu un mot valise, tarte à la crève, mais l'idée, c'est vraiment celle-ci. C'est-à-dire que si l'entreprise, avec la collectivité, participe à former le salarié pour qu'il puisse choisir et pas subir les situations et donc paradoxalement diminuer le stress, effectivement, ça devrait conduire à une baisse du chômage plus forte dans les pays qui l'ont mis en place, c'est-à-dire les pays du Nord, qu'en France, où là, on sait bien que malheureusement, on a vu beaucoup dans les médias d'entreprises dans des conditions dramatiques qui licenciaient leurs salariés, qui fermaient après 25 ans, et ces salariés, généralement, restent au chômage. Et c'est un des aspects pervers de la crise, ce qui fait que la crise laisse des séquelles et qu'on ne peut pas revenir à la fin de la crise à la même situation qu'avant la crise, c'est qu'une partie du chômage conjoncturel lié justement à cet ajustement pendant la crise va devenir du chômage structurel. Et pour tous ces points un peu plus théoriques, on ne l'a pas dit, mais je vous invite à lire l'ouvrage de Jérôme Gauthier qui s'appelle « Le chômage, c'est un repère, la découverte ». Et il est absolument formidable parce que pour ceux qui s'intéressent à ces questions, je trouve que tout est dit. Voilà, donc chômage structurel et conjoncturel, c'est très bien défini.
J'aimerais conclure ici, mais on a encore un peu de temps pour les questions, donc je vous invite.
En fait, vous soulignez, Madame Lemoine, qu'il y avait la partie flexibilité, la partie flexi-sécurité en France, il y avait la partie flexibilité qui avait été respectée, grosso modo, et la partie sécurité qui n'avait pas été respectée. Alors, par rapport à ça, j'aurais juste une question. Au Danemark, on sait qu'il n'y a aucun problème pour qu'un salarié change de poste de travail par an, 3 ou 4 fois par an. Donc un salarié au Danemark, par exemple, peut changer plusieurs fois de poste de travail et d'entreprise par an. J'aurais aimé savoir si c'était souhaitable de le faire en France, première question, et qu'est-ce qu'il fallait faire justement pour favoriser l'adaptation, l'employabilité du salarié pour qu'il puisse retrouver un travail en période de chômage. Bref, compresser le chômage frictionnel. Donc j'aurais aimé savoir quels éléments vous favoriseriez pour justement adapter le salarié qui puisse changer de poste une ou plusieurs fois dans l'année, éventuellement. Voilà.
Alors, quel rythme ou quel niveau de flexibilité est souhaitable? Il n'y a pas de réponse toute faite. Ce qui est important au niveau macroéconomique, c'est qu'il y ait une flexibilité du marché du travail qui permette justement aux entreprises de ne pas faire faillite, pour faire court. Et donc, qu'ensuite, dès que la reprise revient, qu'elle puisse réembaucher des salariés. Donc, pour que ce processus macroéconomique puisse être fluide, il faut que les salariés, justement, garde une certaine employabilité et ne soit pas, pour faire court, rester 25 ans dans le même job sans être capable, parce qu'on ne les a pas accompagnés, ce n'est pas de leur faute, mais sans être capable de pouvoir faire autre chose. Donc si on veut trouver un équilibre entre les deux, malheureusement, je ne sais pas si 2-3 fois par an c'est souhaitable, mais si on veut trouver un équilibre entre les deux, il faut aussi que la société accompagne. Je parlais du logement. Parce que si on, par exemple, si on souhaite être propriétaire, on sait bien qu'en France, il y a des droits de mutation qui sont très importants, c'est-à-dire il y a des taxes quand on achète une maison qui sont très importantes. Et donc, généralement, on ne peut pas vendre sa maison rapidement pour en racheter une autre dans une autre région parce qu'on perd de l'argent. Donc, il faut aussi que tout ce qui bloque la mobilité puisse faire l'objet d'une étude. On sait aussi que quand vous êtes un salarié temporaire, vous avez plus de difficultés d'accès au crédit, par exemple. Et donc, voyez, c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver entre comment on fait pour rendre le salarié qui soit plus mobile et qui choisisse sa mobilité, qu'il ait les moyens de réagir, qu'il ne soit pas fixé dans un poste en subissant le stress, et en même temps que la société lui permette de vivre de la même façon qui soit qui change de job, mettons une fois tous les deux ans, ou qui reste dans le même job 10 ans de suite. Et aujourd'hui, ça, il n'y a pas de réflexion pour qu'on parvienne à cet équilibre. Et donc, pour l'instant, celui qui change de job régulièrement a moins de droits que celui qui reste dans l'emploi. Et donc, si on veut vraiment faire en sorte que cette sécurité du salarié s'améliore, il faut non seulement augmenter sa employabilité, donc lui donner accès à des formations diplômantes qui puissent revendiquer en disant, voilà, j'ai fait ça, je sais faire ça. Et même si mon job, c'était, par exemple, je ne sais pas, d'être économiste, je peux être aussi juriste parce que j'ai passé une formation diplômante qui vous montre que je le suis, mais je veux aussi avoir les mêmes droits si je suis en salarié temporaire et salarié, voilà. Et là-dessus, je trouve qu'on est très très en retard en France.
Oui, une réponse courte. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous avez parlé de salariés en général. Moi, j'ai le cas, je connais très bien, de 3 personnes qui étaient cadres et qui ont perdu leur emploi, qui ont été réembauchées assez rapidement parce qu'elles avaient un CV intéressant. Elles ont été embauchées naturellement en CDD. Et quand pour des postes où l'entreprise était en difficulté, en très grande difficulté, elles ont remis cette entreprise à flot. Elles l'ont même fait dépasser les avantages qu'elle avait avant sur le plan de la prospérité. Et ces personnes, quand leur CDD était fini, elles ont été remerciées. Et elles ont, comment dirais-je, et ça fait des chômages qui sont assez terribles parce que on a l'impression que le cadre, parce qu'ils arrivaient aussi, quand vous avez 2 ou 3 aléas de ce genre-là, vous arrivez à une fin d'allocation, de choses comme ça, et ces gens-là, ils n'ont pas 80 ans, ils en ont 40. Ceux que je connais, ils sont entre 35 et 45 ans, et l'autre jour, celui qui a 45 ans, on lui a dit, vous auriez eu 30 ans, il y avait une place, peut-être, on vous aurait embauché, il lui dit, attendez, j'ai 45 ans, pour avoir cette expérience dans ce domaine-là, on l'a peut-être à 30 ans, mais c'est un petit peu plus rare. Donc, est-ce que vous avez vu dans les enquêtes que vous avez faites des cas qui sont quand même, qui cernent davantage ceux qui sont cadres et qui sont comme ça remerciés du jour au lendemain? Un parallèle peut-être avec une entreprise que je n'oserais nommer et que tout le monde connaît. Mais enfin, ça, c'est dans l'entreprise privée. Ça n'avait strictement rien à voir. C'est des entreprises d'ordre commercial, d'ordre de vente, des directions de vente. Est-ce que vous avez déjà eu à traiter de ce genre d'exemple en Europe? Enfin, pas forcément en France, mais peut-être en Allemagne. Ou... Merci, messieurs. Oui.
Sur les cadres, effectivement, il y a des études d'ordre plutôt sociologique
montre que vous avez beaucoup de têtes qui finissent leur carrière en se mettant un peu en compte sur des lieux, comme freelance ou comme conseiller, parce que c'est la seule façon qu'ils ont de conseiller, en fait, à la fois d'utiliser leurs compétences et du fait qu'au delà d'un certain âge, les entreprises préfèrent embaucher des jeunes. Aussi, quand on a un coup, si vous avez des mal communs, le rôle du salaire en CMP ou de. En France, c'est aussi que les arbitrages d'entreprise sont moins en faveur des personnes usagées qui sont dans le champ. On va peut-être arrêter là pour que vous avez passé le temps.
Merci à vous. Merci.
Merci de vous avoir.